Seigneur, s'il n'y a plus rien à faire pour l'amour de Dieu, à l'envers, où est-ce qu'ils t'ont donc funeste lieu? Allons quelque part où tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Quelque part où tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Quelque part où tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et les fonds de gaz, ça l'a tué. Moi j'aimais pleurer que lorsque j'ai réalisé à quel point on avait bien pu nous leurrer. Quelque part où tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Quelque part où tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Quelque part où tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Pour le mieux dans le meilleur des mondes.
My, 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 my. RFI 6h à Paris, 4h temps universel. L'heure d'un nouveau point sur l'information avec vous, Gaëtan Plenet. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Paul, bonjour à tous.
Et à la une, l'extrême droite en tête du premier tour de l'élection présidentielle en Colombie.
Et elle affrontera la gauche au deuxième tour le 21 juin prochain. On y revient dès le début de cette édition. On va faire un point aussi sur la situation au Moyen-Orient qui évolue beaucoup depuis quelques minutes. Des frappes américaines dans le sud de l'Iran. L'Iran, où les gardiens de la révolution annoncent eux avoir visé une base utilisée pour des frappes américaines. Justement, on va tenter de comprendre ce qu'il en est. On sera ensuite au Liban, autre pays où le cessez-le-feu avec Israël, lui, n'est pas respecté. Les frappes sont quotidiennes dans le sud du pays et c'était à nouveau le cas hier. L'actualité, c'est aussi les élections législatives en Éthiopie. Les bureaux de vote ont ouvert il y a une heure. Et puis les footballeurs du Paris Saint-Germain accueillis en héros hier dans la capitale française où ils ont fièrement affiché leur trophée de la Ligue des Champions remporté samedi soir, le deuxième de leur histoire. Les sondages ont eu tort en Colombie où avait lieu hier le premier tour de l'élection présidentielle. Alors ils n'ont pas eu tort, c'est vrai, sur l'affiche pour le second tour, mais ils se sont trompés par contre sur le nom de celui qui arriverait en tête. C'est l'avocat millionnaire d'extrême droite Abelardo de la Espriella, avec un peu moins de 44% des suffrages selon des résultats qui sont maintenant quasi définitifs. Il arrive devant le candidat de gauche Ivan Cepeda, près de 41% des voix. C'est pourtant lui qui était présenté comme le grand favori de ce premier tour, avec la lourde tâche de maintenir la gauche au pouvoir, pouvoir conquis pour la première fois il y a 4 ans seulement. Ce n'est donc pas encore assuré cette fois, surtout que celle qui est arrivée troisième hier, la sénatrice de droite Paloma Valencia, avec 7% des suffrages, a d'ores et déjà annoncé qu'elle soutiendrait au prochain tour Abelardo de la Espriella, le candidat donc d'extrême droite, le tigre, comme il aime se faire appeler. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs hier devant ses supporters après l'annonce des résultats.
Voici votre tigre, qu'il rugisse et qu'il morde. Merci Colombie, je suis de tout cœur avec vous. Merci pour votre passion. Nous affronterons, vaincrons et punirons les ennemis de la Colombie qui cherchent à détruire notre patrie.
Et le deuxième tour, ce sera le 21 juin entre donc le sénateur de gauche Ivan Cepeda et le candidat d'extrême droite Abelardo de la Espriella que vous entendiez à l'instant. Notez qu'avant le journal de 6h en temps universel sur RFI dans votre chronique La Fabrique du Monde, Arim Lipold reviendra sur la montée des extrêmes droites en Amérique du Sud. Alors qu'on attend toujours un possible accord entre les États-Unis et l'Iran, ce n'est pas la direction que les deux pays semblent prendre ce matin. Les États-Unis annoncent avoir mené de nouvelles frappes dans le sud de la République islamique visant, c'est ce qu'on nous dit, des systèmes de radars et des contrôles de drones. Les gardiens de la révolution, eux, disent avoir visé une base utilisée pour des frappes américaines. On ne sait pas encore où exactement. En tout cas, l'armée du Koweït expliquait il y a quelques minutes faire face justement à une attaque de missiles et de drones, ce qui fut régulièrement le cas pour les pays du Golfe au début du conflit, avant le cessez-le-feu censé être encore en vigueur. On vous tiendra évidemment informé de l'évolution de la situation au Moyen-Orient. En tout cas, une réunion d'urgence est-elle prévue cet après-midi au Conseil de sécurité de l'ONU ? C'est une demande de la France après la prise hier par l'armée israélienne de la forteresse de Beaufort dans le sud du Liban, un site stratégique protégé par l'UNESCO. Un tournant majeur, se félicite le Premier ministre israélien qui a demandé à son armée d'étendre ses opérations contre le Hezbollah dans cette région du Liban. Mais rien ne justifie l'escalade en cours, dénonce le président français Emmanuel Macron. Ça fait des semaines que ça dure maintenant. Là aussi, il y a un cessez-le-feu au Liban, mais il est loin d'être respecté dans le sud du pays. Les frappes israéliennes y sont quotidiennes. Elles ont fait 8 morts hier à l'aube, selon le ministère libanais de la Santé, qui parle même d'un véritable massacre dans la ville de Derzerani. Des immeubles entiers ont également été détruits à partir. Là-bas, il y a 3 camps palestiniens où vivent 30 000 personnes et même ces camps sont désormais visés. Alors, pas d'autre choix. Il faut encore partir et ces Palestiniens, eh bien, ils vont s'abriter dans l'école de Siblin, tenue par l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. L'établissement accueille aussi les déplacés libanais et syriens. Reportage là-bas de notre envoyée spéciale, Sophie Guignon.
À Siblin, au portail de l'école de l'UNRWA, les déplacés arrivent sans discontinuer.
Bonjour, vous venez d'arriver ?
Oui.
Vous êtes de quel camp ?
Nous sommes Libanais de Nabatieh. Monsieur, j'ai 3 enfants et j'ai dormi à la rue.
Vous êtes venu d'où ?
De Bourj El Chemali, je suis syrienne.
Vous avez votre carte d'identité ?
Oui.
Donnez-la-moi, s'il vous plaît.
Bilal Chouli est le responsable de ce refuge le plus grand du Liban. En 48 heures, plus de 900 personnes y ont été accueillies.
On a reçu des Libanais, des Syriens, des Palestiniens. On ouvre de nouvelles classes. Pour l'instant, on a pu accueillir tout le monde.
Ibrahim Sayed est chauffeur de van. Il a évacué tous ses voisins du camp palestinien de Rachidiyeh, Atir.
Après les ordres d'évacuation, on fuit sous les bombardements. Sur toute la route, il n'y avait que des bombardements.
Parmi les passagers, Khadija Asrad, une grand-mère de 65 ans.
Toute ma vie, j'ai vécu l'exode. Nous sommes épuisés. On ne peut rien transmettre à nos enfants. Au fond de nous, on se dit, oh mon Dieu, que Dieu protège nos enfants et leur donne de beaux jours, que cette guerre s'arrête pour de bon et qu'on vive en paix.
Face à cette intense campagne de bombardements israéliens, la France a demandé une réunion d'urgence au Conseil de sécurité. Sophie Guignon, de retour de Siblin, RFI.
Et je rappelle qu'une nouvelle rencontre entre des responsables libanais et israéliens est prévue demain et après-demain à Washington. Elle est prévue aujourd'hui à Marseille. La remise de la plume d'or de la liberté de la presse en marge du 77e congrès mondial des médias d'information. Et cette année, ce sont les représentants de 3 agences de presse internationales opérant encore dans la bande de Gaza qui vont recevoir ce prix pour saluer leur travail depuis 2 ans et demi maintenant dans cette enclave dévastée par les bombes israéliennes. C'est simplement l'endroit le plus dangereux pour les journalistes. Ils sont, selon Reporters sans frontières, plus de 220 à avoir péri depuis octobre 2023. Et au moins 70 d'entre eux ont effectivement été tués dans l'exercice de leurs fonctions. Eux qui sont, c'est vrai, les chroniqueurs d'une guerre, mais qui en sont aussi les victimes en tant qu'habitants de Gaza. Voici le portrait de l'un d'entre eux, enregistré par notre journaliste à nous, à Gaza, Rami Al-Merari et Alice Roussard à Paris.
Mahmoud Aïssa a 30 ans. Ce Gazaoui est marié, père de 5 enfants et journaliste vidéo pour l'agence de presse Reuters depuis le 7 octobre 2023. Tous les jours, même épuisé, y compris psychologiquement, affamé, il a continué d'informer au péril de sa propre vie.
L'une des histoires les plus marquantes, c'était quand je couvrais l'actualité du nord de Gaza, quand les premiers cas de famine sont apparus. Les gens tombaient dans les rues tellement ils avaient faim. J'allais filmer les points de distribution aussi, où les cartons d'aide étaient donnés sous les tirs. Ceux qui en sortaient vivants, c'était miraculeux. Dieu m'a sauvé une fois quand l'aide était distribuée par les avions dans le ciel, car une boîte a failli me tomber dessus.
Lui filmait toutes ces scènes alors qu'il n'avait rien dans l'estomac. Car à Gaza, être journaliste, c'est faire tout ça et le vivre à la fois. Celui qui habitait avec sa famille dans le nord de Gaza, à Jabalia, a tout perdu. Il vit désormais dans une tente dans le camp de Nusayrat.
La maison dans laquelle je vivais a été visée par des tirs d'artillerie 2 jours de suite. Je me souviens que je me rendais à l'hôpital Kamal Adwan lorsqu'un bâtiment à 100 mètres de moi, a été bombardé. L'immeuble de 8 étages s'est effondré, sous mes yeux. Moi, j'ai d'abord tout filmé, puis un nuage de poussière m'a recouvert.
Alors ce prix, la plume d'or de la liberté de la presse, est une incitation à continuer son travail, à documenter, témoigner, car même s'il est épuisé, comme lui, tous les journalistes gazaouis ont ce même message, si on ne fait pas notre métier, qui s'en chargera ?
Alice Roussard et Rami Al-Merari. 2 hommes originaires de République démocratique du Congo et d'Ouganda, placés à l'isolement au Brésil, ils présentent des symptômes compatibles avec le virus Ebola qui fait rage en ce moment dans l'est de la RDC, mais rien d'officiel pour l'instant. En tout cas, plus de 1100 cas suspects selon les derniers chiffres de l'Africa CDC, 43 décès confirmés comme étant dus effectivement au virus, des dizaines d'autres encore seulement considérés comme probables. Les bureaux de vote ont ouvert il y a une heure en Éthiopie, élections législatives ce lundi pour élire des députés qui eux-mêmes éliront ensuite le Premier ministre. L'actuel Abiy Ahmed est candidat pour le rester. Pour ces législatives qui doivent aussi servir à renouveler les cadres régionaux, le parti d'opposition modéré Ezema et la coalition pour l'unité de l'Éthiopie, plus radicale, sont les principaux concurrents au parti au pouvoir, le parti de la prospérité. Et pour certains opposants, c'est une certitude, ces élections ne seront pas équitables, Clotilde Hazard.
Pendant la campagne, Abiy Ahmed a défendu son bilan, comme les méga-projets qu'il revendique, la finalisation du grand barrage sur le Nil, la modernisation d'Addis Abeba ou encore les grands complexes touristiques luxueux qui fleurissent un peu partout. Une jolie vitrine qui camoufle mal la fragmentation du territoire et un bilan humain désastreux selon l'opposition, qui dénonce aussi les restrictions des libertés ainsi que l'insécurité. Dans une grande partie du territoire, le gouvernement est en conflit avec des groupes armés régionaux, en Oromia contre le Front de Libération Oromo, en Amara contre les Fano. Les partis d'opposition n'ont pas pu présenter de candidats dans de nombreuses zones dangereuses. Ils disent y subir des menaces de la part des groupes armés et des forces fédérales. Résultat, le parti au pouvoir concourt seul dans 12% des circonscriptions. Dans la région du Tigré, les législatives n'auront pas lieu. Dans ce contexte, plusieurs spécialistes de l'Éthiopie le disent. Ces élections n'en sont pas vraiment. Selon eux, les restrictions sécuritaires et les pressions sur l'opposition ainsi que sur les électeurs ont privé le scrutin d'une vraie compétition électorale.
En Guinée, c'est hier que l'on votait législative, mais aussi communale, et peu de monde aux urnes, d'après ce qu'on a pu observer dans les principales villes du pays. Cela dit, pas d'incident majeur signalé, on va y revenir évidemment dans nos prochaines éditions. En attendant, la Ligue des champions de football masculine est terminée, mais le repos aura été de courte durée pour ses vainqueurs, les joueurs du Paris Saint-Germain, qui ont eu droit à une journée bien chargée hier. Après leur sacre samedi soir à Budapest, ils sont rentrés en France, dans la capitale, accueillis en héros par des milliers de supporters venus aussi apercevoir le trophée au Champ de Mars d'abord, puis dans la soirée au Parc des Princes, leur stade. Et entre les deux, autre décor moins populaire pour les joueurs, plus officiel, disons, l'Elysée, avec quand même, c'est vrai, comme l'an dernier d'ailleurs lors de leur premier sacre, une ambiance plutôt inhabituelle au palais présidentiel. Raphaël Delvolvé. Paris.
C'était pourtant l'étape la plus protocolaire des festivités. Face à un parterre mêlant politique, sportif et beaucoup de jeunes, les chants de supporters ont vite rythmé la courte réception. Quelques instants en privé avec le président, moins d'une heure en public pour présenter la coupe et entendre les éloges d'Emmanuel Macron.
Cette équipe du PSG, c'est la plus grande équipe d'Europe. Évidemment, la capitale est derrière vous, mais je veux vous dire combien c'est toute la France qui est fière.
Le président, amateur de foot, va cependant, comme l'an dernier, commencer par condamner les violences de la veille ayant suivi la victoire du PSG.
Malheureusement, on a vu des scènes de violence inacceptables à Paris et dans d'autres villes. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. Donc, on sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça, on en a ras le bol.
Une minute d'un discours en faisant 10, durant lequel Emmanuel Macron mêlera les hommages aux stars du Paris Saint-Germain et notamment son entraîneur Luis Enrique, et durant lequel il formulera aussi un vœu pour la Coupe du Monde.
Le PSG a suivi les Bleus, 2 étoiles. Maintenant, j'attends nos Bleus qui nous en mettent une 3e sur le maillot.
Le président se verrait bien recevoir une dernière fois des footballeurs avant la fin de son mandat. Emmanuel Macron ira d'ailleurs voir les Bleus ce mardi avant leur départ pour les États-Unis.
Raphaël Delvolvé, il est 6h12 à Paris.
Gaëtan Plenet.
Le retour de l'actualité africaine, c'est dans une petite vingtaine de minutes. D'ici là, on sera en Allemagne pour parler de cette rumeur, à moins que ce ne soit une vraie hypothèse crédible, remplacer le chancelier Friedrich Merz un an seulement après son arrivée au pouvoir. On verra pourquoi ça fait débat. Le peintre sénégalais Alioune Diagne sera notre invité culture ce matin, lui qui présente une exposition à Paris entre mémoire et disparition des traditions. Et puis on va parler d'âge et de procréation, ce sera dans notre conseil santé du jour. Mais d'abord, on parle de cette réunion dont on n'a pas encore la date précise, mais qui fait déjà trembler les réfugiés afghans en Europe. Une réunion entre la Commission européenne et les talibans, au pouvoir en Afghanistan depuis bientôt 5 ans maintenant, même si leur régime n'est pas encore officiellement reconnu sur le vieux continent. C'est Bruxelles qui a lancé cette invitation il y a quelques semaines pour évoquer le renvoi dans leur pays d'Afghans condamnés, déboutés du droit d'asile ou bien encore en situation irrégulière sur le sol européen. Ça fait polémique, notamment en Suède qui coordonne cette initiative. Notre correspondante à Stockholm est allée à la rencontre de celles et ceux qui sont terrorisés à l'idée de retourner dans leur pays. Reportage d'Otilia Ferré.
Une petite fille pleurait et hurlait sous sa burqa. Les talibans sont arrivés et ils l'ont enterré jusqu'à la taille. Puis ils ont dit « Allez, jetez des pierres ». Et si quelqu'un refusait de lancer des pierres, ils nous ont dit « La prochaine fois, ce sera votre tour ». Elle a été exécutée.
Taghi reste hanté par ce souvenir. Chrétien issu de la minorité Hazara, persécuté en Afghanistan, Taghi a fui il y a une dizaine d'années, mais il vit aujourd'hui dans la clandestinité, la Suède ne lui ayant accordé ni asile, ni titre de séjour, ni nationalité. Son pays, s'il l'a quitté, c'est pour échapper à une exécution. Son crime, ne pas avoir respecté la charia.
La prochaine étape, ce sera que la Suède reconnaisse leur drapeau, leur ambassade, et les laisse entrer à Stockholm et ailleurs. Nous avons fui les talibans pour sauver nos vies. Et ils vont se retrouver ici, dans nos rues. C'est effrayant. Tout le monde sera touché.
Nous sommes à l'agence d'émigration au nord de Stockholm. C'est ici que Yaya, 26 ans, doit venir pointer deux fois par semaine.
I like the squalor and the poverty. Walks a proud Neapolitan girl with a head of thick black curls. She doesn't care about right or wrong, just about where the next meal's coming from. Neapolitan girl. Innocence can often be another one of war's casualties, but innocence can be restored with a visit to the professor at 10,000 lira. He can find the mislaid.